question de la semaine, est-ce que les entreprises privées ne devraient pas être soumises à un programme d'accès à l'égalité? Est-ce que l'on est à l'heure des quotas d'emploi pour les personnes en situation de handicap?
Et continuez de répondre à la question. Vous pouvez le faire sur canalm.vusezvoix.com, sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, exceptionnellement, la table ronde n'est pas directement associée à la question du jour, mais on se pose quand même aussi la question de tous ces parties prenantes qui peuvent aider à l'inclusion. Vous allez entendre, entre autres, comment le complexe Alexinéon, hein, qui est une entreprise, qui est un centre d'achat, s'est mis à l'heure de l'inclusion, et aussi comment, entre autres, des organismes en loisirs et en accessibilité universelle ont réussi ou cherchent à rallier tout ce monde-là, y compris peut-être les entreprises. On pourrait se dire ça comme ça. Donc, d'emblée, je vous présente ces deux femmes qui sont avec nous. Donc, on aborde avec nous Monique Lefebvre, directrice d'Altergo. Bonjour, Monique.
Bien, bonjour, Benoît. Bonjour aux auditeurs.
Oui, ben ça fait un petit moment qu'on ne vous a pas entendu à Accès libre, mais vous étiez en train de préparer notamment ce schéma de transformation sociale, alors?
Oui, on est en réclusion.
En réclusion, tout en préparant le défi sportif, là. Oui. Bon, ça peut tenir occupé, on vous le concède.
Merci.
Et avec nous, pour parler d'innovation sociale, mais aussi d'expérience qu'on aurait pu vivre, dans leur application concrète là, pour favoriser l'inclusion, il y a Dalia Kerry, qui est professeure adjointe au programme de physiothérapie à l'École de réadaptation, et tout ça est dans la faculté de médecine de l'Université de Montréal. C'est assez clair?
C'est exact. Merci.
Merci. Donc, on vous inviterait, Mme Kerry, à entendre un peu le projet d'Altergo. Dans un premier temps, vous allez peut-être apporter votre éclairage, puis aussi, bien sûr, vous avez quelques recherches ou découvertes à nous partager en second lieu de cette table ronde. Donc, je commencerai avec vous, Monique Lefebvre. Bon, ça fait déjà un moment que vous travaillez sur l'accessibilité universelle.
Oui.
Vous essayez de convaincre le monde. C'est pas toujours simple. Hein?
C'est jamais simple. c'est jamais simple.
Bon. Et vous avez décidé de faire, comment je pourrais expliquer ça, un espèce de schéma qui expliquerait comment on va arriver à convaincre le monde que l'accessibilité universelle doit déployer. Est-ce que je me trompe?
Bien, vu qu'on avait beaucoup de difficultés, on a décidé de faire une démarche d'innovation sociale.
Voilà.
Alors, notre démarche d'innovation sociale est inspirée par le programme InnoWave de la Fondation McConnell, parce que notre but, c'était de passer de la réalité, du rêve à la réalité. Alors, notre rêve, c'est de créer de l'accessibilité universelle. C'est une belle expression, mais faut-il encore savoir comment y arriver? Et on voulait trouver des méthodes différentes que des méthodes traditionnelles, parce que c'est quand même un changement important. Donc, on voulait comprendre, puis surtout saisir qu'est-ce qu'Altergo pouvait jouer comme rôle dans ce champ à développer. Alors, pour les auditeurs, je pense que vous savez que notre spécialité, c'est le sport, le loisir et la culture.
Il ne faut pas oublier la culture. On ne nomme pas, je suis désolée.
Il n'y a pas de quoi. Alors, donc, on voulait absolument trouver une façon de faire. Donc, le schéma de transformation sociale, c'est un outil qui est l'aboutissement de 8 mois de travail où on a réfléchi à comment créer l'accessibilité universelle en sport, loisirs et culture.
Vous avez fait ça, j'imagine, avec vos membres, mais aussi d'autres gens.
Oui, ben on a fait ça. Initialement, quand on embarque dans le programme InnoWave, on est aidé par 2 mentors. Et les mentors nous appuient une rencontre par 2 semaines pendant 6 mois. Oui. Alors, c'est quand même assez...
C'est lourd.
Oui, c'est lourd, c'est intensif. C'est de la réflexion sur comment créer l'accessibilité universelle. C'est pas simple à faire. Donc, il a fallu bâtir sur ce qu'on connaissait puis se projeter dans l'avenir. Pour nos auditeurs, c'est beau de dire « OK, Altergo va créer de l'accessibilité universelle, mais encore. »
C'est votre signature corporative, c'est votre slogan, oui.
Nous, notre résultat final, c'est à quoi on veut aboutir? Ben, on souhaite, c'est faciliter la vie des personnes handicapées puis des familles dans le domaine du sport, loisirs et culture. Donc, c'est faire en sorte que les personnes aient le droit à la même qualité de service, pas juste droit, qui aient la même qualité de service, disponibilité de service puis diversité de service. Ça veut dire que si tu veux faire une activité, tu veux faire un sport, tu veux participer à la communauté, que ça soit simple pour toi.
Ouais.
Fait que notre vision, c'est l'accessibilité universelle partout pour tous.
Puis ça, c'est important de le dire. Dans toute démarche comme ça, que ce soit d'évaluation, de construction d'un schéma théorique, il faut penser à c'est quoi le but ultime.
Exact.
Quel genre de société on va faire à la fin. Puis vous l'écrivez dans votre schéma, que l'accessibilité universelle soit, mais ça veut dire comme vous le disiez, la disponibilité, la qualité, la diversité des activités, des services, sports et loisirs pour les personnes en situation de handicap. Donc ça, vous partez de là. C'est la première chose que vous avez définie.
Oui. Puis le résultat, on souhaite aussi le faire avec d'autres organismes parce que c'est un mandat tellement grand qu'il faut le faire avec les partenaires. Puis c'est aussi de proposer aux partenaires une façon de voir puis de travailler. Mm-hmm. C'est aussi, on se rend compte que les personnes handicapées sont des ambassadrices hors pair de l'accessibilité universelle. Il faut les embarquer et les organisations.
Oui, dans le schéma, ils sont où d'ailleurs? Parce que dans les résultats, on le voit, ils comprennent mieux comment le faire. Ils sont plus à la fin de tout ce travail-là de sensibilisation, etc. Ils sont capables, ils ont plus de pouvoir d'agir, ils sont des ambassadeurs. Mais dans le processus, où ils sont?
Dans le processus, il n'y a pas grand monde qui est écrit dans le processus. Nous, notre résultat, c'est de faire en sorte que les personnes handicapées agissent comme ambassadrices, comme les organisations.
Ouais.
Puis ce qu'on a proposé, c'est comment on peut y arriver à créer l'accessibilité. Mm-hmm. Parce que ça fait bien des années, ça fait plus que 25 ans qu'Altergo travaille à développer l'accessibilité universelle. Mm. C'était de se rendre compte comment ça fonctionne. Parce que quand tu travailles, par exemple, un élu, parce que ça, c'est une cible, on veut changer des choses et faire que les élus deviennent des porteurs de l'accessibilité universelle, on a identifié que 4 étapes. Il faut connaître, comprendre, contribuer et porter l'accessibilité universelle. Mmh. Alors, quand un élu est là depuis 5 ans ou 6 ans et travaille dans l'accessibilité universelle, il devient souvent très porteur.
Oui.
Mais quand c'est sa première fois qu'il entend le mot accessibilité universelle, ben, ça arrive encore aujourd'hui.
Très souvent, parce qu'on a toute une bande, entre autres, sur l'échelon municipal. On a beaucoup de nouveaux élus là, en ce moment.
Absolument.
Donc, il faut commencer du début.
Fait qu'il faut comprendre qu'ils ne peuvent pas être aussi performants que quelqu'un, ça fait 5 ans qu'il connaît ça.
Bien sûr.
Donc, ça nous donne une courbe d'apprentissage. Et on s'est dit, ben, pour connaître, il faut que les gens soient en contact avec les personnes qui ont des limitations, qu'ils soient sensibilisés. Pour comprendre, on va un peu plus loin, on fait de la formation.
Ouais.
Ensuite, on souhaite que les gens posent des gestes dans leur propre organisation qui deviennent accessibles. Mm-hmm. Et une fois qu'ils ont goûté à l'accessibilité, qu'ils trouvent ça fantastique, qu'ils en deviennent porteurs.
Ah ouais.
Parce qu'on constate sur le terrain qu'à chaque fois qu'on contribue à l'accessibilité, que les services sont plus accessibles, les clients sont plus contents. Puis pas juste des personnes qui ont une limitation. Donc, les gens connaissent la force de l'accessibilité, l'impact que ça a pour la communauté. Puis là, ils deviennent porteurs. Puis là, ils disent aux autres, ben voici qu'est-ce
que ça, il faut avoir fait l'expérience soi-même pour être un bon promoteur de l'accessibilité universelle.
Donc, ça va permettre à Altergo d'optimiser ses actions, finalement, de canaliser, d'optimiser ses actions en fonction de à quelle étape est rendue l'organisme, la personne.
Puis c'était le but aussi pour Altergo, parce qu'on a des moyens limités. On a, bon, on a une notoriété, on a des plus, mais on a quand même des ressources limitées. Mmh. Donc, où on peut agir pour avoir le plus d'impact?
C'est ça.
Donc,
Et
rayonner, bien sûr, et faire rayonner l'accessibilité universelle. Mm-hmm. Donc, vous avez regardé comment on pouvait arriver justement à ce que l'accessibilité universelle soit, mais au bas de ça, vous avez quand même précisé comment Altergo va pouvoir précisément intervenir.
Oui.
Donc, mais vous le faites déjà remarquer, vous sensibilisez, vous formez, vous accompagnez et vous connectez.
Oui, on souhaite que les gens se parlent davantage parce qu'à la base, il faut créer un milieu des gens qui sont mobilisés, qui le fassent. Altergo ne peut pas faire ça seul.
Non, bien sûr.
Je pense que bon, la communauté de pratique, que ce soit société inclusive, c'est des partenaires importants pour y arriver. Il faut qu'on soit nombreux à partager une vision et à faire embarquer les gens dans notre rêve pour que ça puisse fonctionner. Alors, puis on a 3 publics cibles là, qu'on veut vraiment avec
changer.
Qui ont changé, disons-le. Les élus, le grand public. OK, le grand public, il faut qu'ils connaissent l'accessibilité. Ils la voient, ils en profitent, mais peut-être qu'ils n'ont pas toujours l'occasion d'en parler, de parler des retombées positives pour sensibiliser les élus. Parce qu'on sait, si les élus ont des feedbacks positifs de l'accessibilité, ils vont en créer davantage.
Oui, Dieu sait qu'il nous parle des feedbacks négatifs parfois pour justifier un non-investissement. Alors, célébrons quand ça fonctionne. D'ailleurs, Dalia Kerry, on parlera plus clairement d'un projet qui a bien fonctionné, en fait même deux qui ont bien fonctionné après cet instant musical. Mais avant, j'aimerais vous entendre, peut-être réagir, puisque vous êtes une chercheuse dans le domaine de l'innovation sociale. Comment vous trouvez le schéma? Qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce schéma important de transformation sociale dans le but de faire l'accessibilité universelle?
Bien, c'est sûr, j'adhère beaucoup à cette vision-là, d'abord de collaboration, d'inclure les bonnes personnes, les personnes pertinentes pour pouvoir apporter du changement, de penser dès le début qui devrait être impliqué sans aller trop développer tout seul dans un coin.
Oui.
Alors, même.
Faut pas que le chercheur ait déjà fait toute sa recherche avant d'impliquer les gens.
Voilà, exactement. Et d'avoir aussi un schéma comme ça, ça permet de structurer toute la démarche, puis de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde aussi, mm-hmm. puis parle le même langage.
Bien
Alors
ça
aussi, je trouve ça très, très pertinent. Puis c'est une approche que j'essaie d'utiliser aussi dans les travaux de recherche.
Et donc, cette approche-là, vous le dites, c'est celle de l'innovation sociale. Vous partagez ça, Monique Lefebvre mm-hmm. d'Altergo et Dalia Kerry de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Dans quelques instants, on va en apprendre un peu plus sur d'autres expériences heureuses.
Tu me demandes qui je suis. Je suis de n'importe où. Tu me demandes où je vais. Question idiote, réponse idiote, apprends la leçon. Tu me demandes combien je fais. Je fais de mon mieux. Et ce mieux, combien c'est?
De la semaine, est-ce que les entreprises privées ne devraient pas être soumises à un programme d'accès à l'égalité? Est-ce que l'on est à l'heure des quotas d'emploi pour les personnes en situation de handicap?
Continuez de répondre à la question et en table ronde avec nous sur ces communautés de pratique qui permettent de faire une société plus inclusive, sur l'accessibilité universelle. Il y a deux personnes fascinantes. On était avec Monique Lefebvre, directrice d'Altergo, qui nous a parlé de son schéma de transformation sociale. Et nous sommes aussi avec Dalia Kerry, qui est professeure adjointe au programme de physiothérapie à l'École de réadaptation à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. J'y suis arrivée, merci. vous connaissez bien l'innovation sociale, les communautés de pratique. Expliquez-nous un peu mieux tout ça. Puis il y a même des groupes, notamment à Montréal, qui mm-hmm. œuvrent concrètement, avec qui vous œuvrez. Donc, expliquez-nous un peu mieux qu'est-ce qu'une communauté de pratique? Qu'est-ce mm-hmm. que c'est l'innovation sociale?
Donc, une communauté de pratique, ce que ça vise, c'est de regrouper des gens qui ont un intérêt commun mm-hmm. pour pouvoir co-construire des connaissances.
Bien.
Alors, on a développé une communauté de pratique en lien avec la participation sociale pour les personnes handicapées, mm-hmm. donc qui vise à trouver des façons de maximiser la participation sociale. Et ça regroupait des chercheurs mm-hmm. dans ce domaine-là, notamment en réadaptation, et aussi des cliniciens qui sont dans les milieux de réadaptation, des organismes communautaires comme Altergo, des politiciens, mm-hmm. Des personnes du grand public. Donc, on avait un regroupement de personnes. Mm. Et ce regroupement de personnes-là est parti à partir d'un projet qui a découlé du CRIR, le centre de recherche auquel je fais partie, le centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation, excusez-moi, à Montréal. Donc, il y a eu un projet de laboratoire vivant mm-hmm. où on a avec un partenaire, le centre d'achat Alexis Nion.
Et ça, c'est important de le dire, parce qu'on parlait de l'implication des entreprises mm-hmm. en vue de faire une société plus inclusive. Ça, c'est comme un phare dans la nuit. Moi, ça m'avait complètement mm-hmm. étonné. Alexis Nion, qui souhaite faire des rénovations majeures, faire des grands changements, décide de s'associer avec un Living Lab mm-hmm. pour être certain que l'ensemble des personnes qui vont utiliser ou fréquenter ces commerces vont pouvoir le faire en toute indépendance, dans l'esprit de l'accessibilité universelle. Ouais. Donc, revenez sur cette expérience-là. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est terminé, en
oui.
gros, là.
Ouais. Oui. Alors, lorsqu'il y a eu cette expérience-là, ça a été, encore une fois, plusieurs partenaires qui ont été mis ensemble mm-hmm. À travers un grand projet qui était subventionné par le Fonds de recherche en santé du Québec. Il y a eu l'industrie privée, il y a eu aussi les cliniciens, les chercheurs, les membres du public, les personnes avec des handicaps. Et il y a eu des projets de recherche qui ont eu lieu en rapprochant tous ces membres-là. Oui. Alors, divers projets de recherche, dont des projets qui ont lieu sur les lieux d'Alexis Nion. Oui. Donc, c'était vraiment intéressant de pouvoir aller voir vraiment comment on pouvait développer des nouvelles technologies, faire certains tests, mm-hmm. Aller former des commerçants. Mm. Il y a eu beaucoup d'expériences intéressantes.
Vous travaillez avec beaucoup de physiothérapeutes. Quelles sont les aides techniques qu'on peut avoir dans les milieux comme les toilettes ou des endroits de fréquentation?
Voilà, on a eu des projets avec des fauteuils roulants motorisés. Ouais. Exactement.
Mm. OK.
Et de là est partie la communauté de pratique également, parce qu'on a dit, avec tous ces projets de recherche, comment est-ce qu'on va partager les informations et aussi développer des projets qui correspondent aux besoins de tous les partenaires.
Mmh. Ça, c'est important, vous le dites, le besoin, pas juste des partenaires, mais des personnes mmh. En situation de handicap. Donc, oui. C'est souvent à partir de concepts que les chercheurs doivent travailler, mais vous êtes vraiment partie des besoins, là.
Oui, oui. Il y a eu des projets qui ont émané des besoins qui sont ressortis, entre autres, dans la communauté de pratique.
Mm-hmm. OK. Cette communauté de pratique-là, il y a eu quelque chose comme un succès, Alexis Nion, mm-hmm. auquel a participé d'ailleurs Altergo. Et là, cette communauté, elle existe toujours. Elle est toujours là. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce réservoir, j'oserais dire, d'experts, de personnes là, qui œuvrent à l'inclusion?
Donc, la communauté de pratique se poursuit. Mm-hmm. Puis là, elle va faire partie d'un autre projet, d'un autre grand programme.
Qui vient de Québec, lui.
Qui est à l'échelle de la province.
Ah, OK, OK.
Donc, c'est le projet Société inclusive, subventionné par les trois fonds de recherche du Québec cette fois-ci.
Ah,
donc,
voilà.
Intersectoriel, c'est-à-dire on a l'ingénierie, on a les sciences sociales, on a les sciences de la santé mm-hmm. qui sont regroupées. Encore une fois, qui vise à optimiser l'inclusion sociale, la participation sociale des personnes ayant un handicap.
Si je peux me permettre, je connais bien aussi le projet Société inclusive, puis ce qui est fantastique pour des organismes comme nous, c'est la mise en contact avec les chercheurs.
Mm-hmm. Ah oui.
Alors, ils nous connectent ensemble, tu sais, les porteurs de l'accessibilité, pour que aussi les organismes puissent communiquer leurs besoins, communiquer mm-hmm. les besoins de la clientèle, puis les chercheurs cherchent aussi des recherches à faire, puis partager leur expertise.
Des solutions, mmh.
Oui. Alors ça, c'est vraiment fantastique comme projet.
Et c'est dans le but de trouver des solutions, mais il y a quand même un défi qui se pose. Est-ce que c'est facile de mettre à table des chercheurs qui ont vraiment leur manière de faire, parfois des intérêts privés qui ont des choses à vendre, des organismes qui ont des agendas à défendre, puis des personnes qui cherchent à ce que ça aille bien pour leur propre vie. Comment on arrive à faire vivre tous ces gens-là en vue de développer des solutions?
Ben c'est vrai qu'on dit parfois que les gens se parlent un différent langage.
Oui.
Mais c'est en utilisant des stratégies comme la communauté de pratique et d'autres stratégies que le programme Société inclusive met en place pour rapprocher le monde, mm-hmm. pour s'assurer que tout le monde se comprend, puis pour que tout le monde, pour que vraiment les projets émanent des besoins. C'est vraiment ça.
Moi, j'ai une question concernant tout ce qui a été fait au centre Alexis Nihon. Est-ce que ça pourrait être appliqué maintenant facilement à d'autres centres d'achat, vu que vous avez tout le matériel, mm-hmm. vous avez fait toutes les recherches, est-ce qu'il pourrait être dupliqué dans d'autres centres d'achat, cette communauté de pratique pourrait s'adapter facilement ou pas?
La communauté de pratique, je ne suis pas certaine. Je pense que chaque milieu a ses besoins. Donc, oui, une communauté de pratique, mais une communauté de pratique pour répondre à un besoin.
Ouais.
Mm-hmm. Alors, ça regroupe...
Ah, parce qu'elle peut changer, cette communauté-là, tout voilà. dépendant de ce qu'on doit évaluer.
Même si c'est un centre d'achat avec sensiblement des mêmes besoins, ça ne serait pas facilement reproductible.
Ben, ce n'est pas que ce ne serait pas reproductible, mais ça ne serait pas nécessairement une communauté de pratique dont ils auraient besoin.
Okay.
Ça serait peut-être certaines stratégies mm-hmm. qui ont été développées à travers ce projet-là qui pourraient être mm-hmm. appliquées
oui.
dans d'autres
Parce
centres
Parce qu'il y a un rapport là, qui est émané de ce Living Lab-là.
Oui, il y a des rapports, mm-hmm. il y a des rapports des recherches, il y a des rapports de différents projets.
Pour faire réinventer la roue
voilà,
à chaque fois.
Exactement.
Et aussi, un des effets, c'est l'entreprise Cominor qui est propriétaire de la place Alexis Nihon.
Mm-hmm.
Alors, eux sont propriétaires de plusieurs centres ouais. d'achat à travers le Canada. Et pour avoir rencontré des gens de cette organisation, le projet de cette communauté de pratique a influencé cet organisme.
Ah oui.
Alors, si on fait un lien avec notre schéma de transformation sociale, cet organisme contribue maintenant dans ces centres d'achat, change des façons, change des pratiques.
L'entreprise?
Pour okay. être plus inclusive. Puis c'est quand même Super. Une organisation à un grand rayonnement canadien.
Mm-hmm.
Donc, peut-être pas facilement reproductible dans les autres centres d'achat, mais au moins dans la famille Cominor, l'expertise peut se transmettre, puis je pense qu'ils ont une grande préoccupation à cet effet.
Vrai.
Mais
ah,
si ce n'est
super.
Aussi que la certitude que ça peut bien fonctionner, parfois, oui. c'est, comme vous mmh. le disiez, c'est pas juste le savoir, là, mmh. c'est la conviction que ça va marcher, mmh. l'inclusion. Puis bon, les entreprises ont des manières différentes là, de justifier leur investissement, évidemment. Mmh. Donc, il faut leur prouver
voilà.
que
oui,
ça
tout
fonctionne.
À fait.
Oui, puis par exemple, comme nous, on a travaillé à former du personnel à la place Alexis Nihon.
Oui.
Les chercheurs ont évalué est-ce que ça avait eu un impact? Puis on a vu que ça a un impact positif sur la confiance, sur le niveau de connaissance.
Mm-hmm.
Donc, quand on arrive avec des partenaires, de plus en plus, on demande est-ce que vous avez des preuves? Mm-hmm. Comme quoi, ce que vous faites a une influence? Donc,
Positive.
La collaboration entre le milieu communautaire et les chercheurs, ben, ça nous outille davantage. Mm-hmm. Puis quand on arrive avec des gestionnaires, ben, on a plus d'outils pour témoigner de l'efficacité de nos méthodes.
Et ça, c'est important, là. C'est pas seulement mm-hmm. nos rêves, comme on le disait plus tôt, mm-hmm. ou comme on entendait dans une certaine chanson. c'est aussi comment on va les faire se matérialiser. C'est quoi vos futurs projets?
Bon, pour la communauté de pratique, elle se poursuit dans le contexte du programme Société inclusive. Donc mm-hmm. ça, c'est pour les 3 prochaines années. Donc, mm-hmm. on sait qu'on poursuit oui. là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de collaborations qui émanent à partir des contacts.
Ah oui, il n'y a pas seulement
font...
qu'un seul oui. projet. Effectivement, c'est comme une communauté qui pourrait amener à une multitude
voilà.
de projets
exactement.
D'inclusion.
Exactement. Okay. Donc, il y a d'autres projets
Mais est-ce
qui
que vous pouvez
démarrent.
En citer quelques-uns? Parce que là, j'ai envie d'en savoir un peu plus.
Oui, donc, ben, par exemple, je collabore avec Catherine Blanchette Allaire,
ben oui,
la
bien
sûr. Peut-être, de On Roule, et on vise à... elle s'intéresse beaucoup à l'accessibilité des lieux physiques, et on vise à trouver une façon de mieux outiller les gens pour avoir accès à l'information dont ils ont besoin pour avoir une pleine participation sociale.
Mm-hmm. Okay.
Donc, au-delà d'avoir de l'information sur les différents lieux, savoir quelles activités sont accessibles,
mm-hmm.
D'avoir de l'input d'autres personnes mm-hmm. pour pouvoir comparer par rapport à cette difficulté que je vis, est-ce que je vais pouvoir y avoir accès.
Donc,
on collabore sur un projet ensemble.
Donc, en somme, c'est la fondatrice de onroule.org
oui.
Dont on parle. En fait, si je comprends bien, cette recherche-là va permettre de comprendre comment les gens s'interrogent et interrogent l'accessibilité universelle des différents lieux.
Oui, puis comment ils peuvent trouver de l'information
comment trouver
pertinente
l'information.
Pour eux,
okay.
Okay, selon leurs besoins.
Bien mmh. sûr.
Ouais.
C'est un grand défi parce que les services adaptés, je considère que c'est le secret le mieux gardé.
Ouais.
Je trouve que les organisations font beaucoup d'efforts, mais ne communiquent pas aux personnes qui ont des limitations.
Oui, une fois que tout ce travail-là a été fait d'adaptation,
voilà.
de mise en accessibilité, il faudrait bien que les gens les fréquentent, les
bien
lieux.
Oui, alors que les personnes qui ont des limitations, qui fréquentent les lieux, ben prenez la parole, dites-le, communiquez vos besoins, ayez pas peur, allez de l'avant, parce que les gens apprécient avoir un feedback de la clientèle.
Bien sûr, mais savoir, voilà, si ça peut continuer dans l'harmonie et l'inclusion.
Et peut-être je peux juste rajouter, justement, ce besoin-là, il a émané de la communauté de pratique.
Ah, voilà. Voilà. Donc, c'est toujours heureux de entendre confirmer ça. Dahlia Kerry, je rappelle que vous êtes professeur adjoint à la faculté de médecine de l'Université de Montréal et que vous œuvrez très concrètement pour faire ces communautés de pratique. Merci beaucoup. Et Monique, Monique Lefebvre, directrice d'Altergo, merci d'être passée par chez nous.
Ben, merci infiniment.
merci Anne-Laure.
Merci.